Тарасу и Паскаль Сивый.
Bonsoir, 16 minutes de les choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021, c'est 22 degrés sur Québec, c'est très confortable avec le facteur humidex, une température ressentie de 23, donc on touche à rien, touchez pas à ce piton-là. Ce soir, ciel dégagé, minimum de 12 degrés, demain mercredi ensoleillé avec un maximum de 27, jeudi ensoleillé maximum de 28, vendredi ensoleillé maximum de 28, donc amenez-en des projets cette semaine, il va faire beau, c'est le fun de faire des toitures à cette température-là.
C'est le fun de faire des toitures.
Ben oui.
Moi, j'ai juste besoin de ça avec un point d'interrogation à la fin de cette phrase-là. Le fun avec une taqueuse, par exemple. Tu sais, au bardeau, là.
Ouais.
Ça, j'ai du fun.
T'aimes ça, toi?
Oui.
T'as déjà fait ça?
Attaché, par exemple.
Faut que tu sois attaché.
Ben oui, mais tu sais bien, moi, mes cadeaux de Noël, là, c'est une ceinture à outils, c'est des câbles à booster. Mon père, c'est le fun, c'est selon nos intérêts.
Mais faut que tu sois attaché. OK, passons au prochain sujet. Je l'adore, cette femme-là. C'est une criminologue, c'est une sociologue. On peut jaser avec elle pendant des heures et des heures du crime organisé. C'est Maria Mourani. Elle est au bout du fil. Salut, Maria Mourani. Comment allez-vous?
Ça va bien, et vous?
Ça va bien. Êtes-vous en vacances, là? Je vous dérange-tu?
J'avoue que je suis pas en vacances. Je suis en train de faire un gros rapport, là.
Ah oui?
Vous libérez mon esprit pour quelques minutes.
Ouais. Est-ce que c'est une nouvelle pour vous de voir qu'actuellement, les services de police, autant à Montréal qu'à Québec, se concentrent énormément sur le trafic d'armes, se concentrent sur des gens qui pourraient conserver chez eux des armes illégales qui ont passé à la frontière? C'est une nouveauté pour vous? Ben, parce que moi, je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui avaient des armes aussi dangereuses à l'intérieur de leur domicile, Mme Mourani.
Ben, en fait, c'est pas nouveau le problème qu'on a au Québec et au Canada en général sur le trafic d'armes. C'est pas nouveau. La seule petite différence, c'est que après la pandémie, disons les 3 années après la pandémie, on a constaté une augmentation des fusillades parce que il y a eu beaucoup d'instabilité dans l'écosystème criminel et donc on s'est retrouvé vraiment à Montréal d'abord là avec des augmentations de fusillades, mais ça s'est répertorié aussi à Québec, dans la région de Québec, avec toute l'histoire avec BFM et compagnie, conflit avec les Hells et tout. Donc on a vu une augmentation des fusillades, ce qui a fait que la police, vous savez, la stratégie, c'est toujours la même, hein. C'est, lorsqu'il y a des fusillades comme ça, lorsqu'il y a des conflits internes, des guerres intestines ou même entre groupes, ben il faut enlever les armes de la rue. C'est la première stratégie qui a fait ses preuves, c'est-à-dire à court terme, hein, je ne parle pas à moyen ou long terme, à court terme, il faut enlever les armes, il faut enlever ceux qui portent les armes, ceux qui vendent les armes, pour faire en sorte de faire baisser un peu la tension. Donc, c'est constamment ça que la police va faire. D'ailleurs, comme on l'a vu, il y a eu plusieurs opérations policières qui ont ciblé d'abord BFM, ensuite les Hells. Donc, c'est ça le but, hein. C'est vraiment d'enlever de la rue ceux qui causent le plus de violence.
Parce que
ça m'étonne pas les chiffres concernant que ce soit les arrestations pour armes à feu ou que ce soit les arrestations d'individus qui ont commis des crimes avec armes à feu.
Parce que Geneviève Guilbeault, je pense que du temps où elle était pour la sécurité publique, avait mentionné qu'elle demandait à ses policiers d'intensifier les présences au niveau des cours d'eau qui sont entre les États-Unis et le Canada. On n'a pas l'impression que ça a été fait, ça, du moins du côté du Québec, là. Parce qu'on le sait qu'il y a des endroits au Québec où ça passe par les cours d'eau, tout simplement, dans des endroits qui ne sont pas surveillés par des policiers québécois, là.
Ben, ça rentre beaucoup des États-Unis, hein, faut le savoir. Je dirais la grande majorité de nos armes de type non artisanal, là, parce qu'il y a quand même une petite proportion là, quand même, qui est fabriquée avec
soit
par le rafistolage de pièces.
Ouais.
Parce qu'on peut acheter ça facilement sur Internet, là, les kits à 80% ou à 75%, puis le reste, tu l'assembles avec la quincaillerie du coin, là, ou carrément les armes en 3D. Ça, c'est devenu de plus en plus populaire. Mm-hmm. Enfin, c'est pas cher, c'est ça aussi, c'est pas cher à fabriquer. Mais encore, le marché traditionnel des armes à feu illégales est quand même assez majeur, c'est-à-dire on estime autour de 80%. Là, c'est toujours la majorité de ces armes viennent des États-Unis. Et les vendeurs, là, si vous voulez, ou les importateurs sont pas forcément du crime organisé. Beaucoup sont du crime organisé, mais parfois il y a des indépendants qui sont monsieur, madame, tout le monde. Hein. Ils ont des permis de port d'armes, ils ont des permis, ça, ils ont tous les permis, que ce soit pour transporter l'arme ou que ce soit pour acheter l'arme. Et ils vont les acheter aux États-Unis, parce que c'est encore plus facile de les acheter là-bas. Et ils traversent la frontière avec. Donc, c'est autant terrestre que maritime, si on peut le dire comme ça. Le fleuve Saint-Laurent, même dans les réserves autochtones, là, avec l'Ontario aussi, ça passe par des bateaux-conteneurs même.
Mais c'est ça, c'est un peu plus compliqué pour la Sûreté du Québec. Quand on sait que sur certains cours d'eau, bon, entre les États-Unis et le Québec, bon, il y a une réserve amérindienne qui est du côté du Québec. Les policiers de la Sûreté du Québec ne sont pas super enclins à aller enquêter dans ces secteurs-là parce qu'ils ne sont pas toujours très bien reçus.
En même temps, les enquêtes doivent toujours se faire en partenariat avec les peacekeepers. Généralement, il y a des ententes entre eux, hein, d'intervention, d'aide, d'échange, de collaboration, et puis aussi avec l'OPP, hein, c'est pas juste la SQ, c'est vraiment la GRC, l'OPP, les peacekeepers, c'est vraiment un ensemble, les services frontaliers aussi, là, c'est vraiment des équipes concertées qui travaillent ensemble, puis là, bon, on a les équipes, les équipes de la SQ qui sont plus dirigées par la SQ comme Centaure, etc., qui vont travailler en collaboration. Mais c'est vrai que ça rentre pas mal, que ce soit par la voie terrestre, qui est quand même la plus facile, hein, parce qu'au fond, parfois, il y a juste un bout de terre, là, ça, c'est une petite distance, là, qui est pas surveillée. Vous savez, il y a autour de 110 routes non surveillées au Québec. On parle beaucoup de certaines routes, là, mais il y a bien plus que ça, là. Tu sais, parfois, là, il y a des maisons qui sont entre les États-Unis et le Canada. Il y a pas de surveillance, là. C'est comme tu traverses, là, un arbre et puis t'es rendu aux États-Unis, puis tu traverses de l'autre côté. Tu arrives au Canada, donc les frontières sont très poreuses. C'est pas nouveau. Bon, moi, je vous dis, j'en parle là, depuis plus de 20 ans. Là, j'en parle que nos frontières sont très poreuses, surtout au niveau terrestre. Puis au niveau maritime aussi, ça passe par le Saint-Laurent. Mais le terrestre, là, c'est quand même assez important, là, assez important.
Est-ce que
maintenant, on a les drones aussi, là, donc...
Est-ce que c'est si difficile à gérer ou ça profite à quelqu'un que ça a été aussi facile au cours des dernières années?
Ben, c'est tout le temps... Ça a tout le temps été facile, je vous dirais. Je pense que c'est... Comment dire... Moi, j'ai déjà fait la visite à la colle. Hein. Je suis allée visiter ça avec les Américains et du côté des agents frontaliers canadiens. Et je vous dirais, les gens sont très conscients qu'ils peuvent pas tout vérifier. Hein. Les voitures qui passent, là, parfois, tu peux pas savoir que qu'il y a des armes qui sont cachées dans la voiture. Parfois, ils vont leur donner des informations en disant « bon, mais voilà, il y a tel véhicule ». Ils vont beaucoup agir sur les informations qu'ils reçoivent pour pouvoir, disons, faire des bostages. Mais parfois, ils sont pas fous, hein, les gars du crime organisé. Là, ils vont passer des informations comme quoi il y a, je sais pas moi, cargaison d'armes qui passe à telle heure, tel jour. Puis pendant que les forces sont là pour vérifier ça, ben il y en a 3-4 autres qui passent ailleurs. C'est comme la drogue, c'est pareil. C'est pareil que la drogue. Donc c'est malheureusement, je trouve que on a toujours pas une vision, en tout cas au Québec et au Canada, là, parce que les Américains, eux, ils sont beaucoup dans la paranoïa, là, comme vous le savez. Et puis, même, je vous dirais, c'est assez, assez drôle à dire, là, que heureusement, il y a les Américains de l'autre bord pour surveiller nos frontières. Parce que nous autres, je peux vous dire, c'est pas fort. Hein. Ça, c'est sans compter le nombre d'agents de services frontaliers qu'à chaque fois, il y a les grosses discussions qu'il n'y en a pas assez, là.
Ouais.
Puis, il faudrait placer, on a des grandes frontières, hein, il faudrait placer des ports, des points de contrôle là, sur presque 110 routes, là, juste au Québec. Là, hein, je ne vous parle pas en Ontario et puis le reste. Là. Vous imaginez un peu la grandeur des frontières qu'on a.
Effectivement, effectivement. Je veux vous amener, puis je ne veux pas faire de politique avec vous, mais on n'aura pas le choix quand même d'en parler. Là. Paul Saint-Pierre Plamondon, mercredi dernier, qui accordait une entrevue à TVA Nouvelles, qui parle de la violence qui est observée chez les jeunes de plus en plus et qui serait liée, selon lui, en partie à des groupes criminels issus de l'immigration qui importent ici des méthodes nouvelles. Êtes-vous d'accord avec lui?
Écoutez, M. Plamondon n'est pas un spécialiste, puis ça se voit dans ce qu'il dit. Non, pas du tout. Pas du tout d'accord avec lui. D'une part, quand il dit des groupes issus de l'immigration qui amènent des nouvelles méthodes, faudrait qu'il m'explique c'est quoi les nouvelles méthodes. J'ai écouté une de ses entrevues. Il disait les groupes recrutent des jeunes de plus en plus jeunes. Bonjour, réveillez-vous. Ça fait plus de 20 ans que c'est connu que les gangs de rue, leur marque de commerce, là, c'est de recruter des jeunes. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez de toutes les entrevues que j'ai données. J'ai même dit que ça recrute à 10 ans.
Oui.
Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Là.
Oui.
Donc oui, il faut se réveiller. Les gangs, c'est pas nouveau. Les gangs de rue, c'est leur marque de commerce. C'est des jeunes, déjà en partant, je dirais, jusqu'à 22, 23 ans, là. Quand t'as dépassé 22 ans, ben, t'es plus vraiment gang de rue si t'es encore dans le métier, là, dans le milieu, là, disons, parce que pour eux, c'est un métier. Quand t'es là-dedans, t'es rendu ailleurs. Mais habituellement, le recrutement, il se fait très jeune. Il parle, par exemple, de violence. De méthodes de violence différentes. Oui, c'est vrai, mais je m'excuse, ces méthodes-là qu'on appelle, et c'est vrai, moi, la torture, par exemple, c'était pas une méthode très utilisée dans les gangs. Hein. C'est plus des méthodes, je dirais, utilisées par certains groupes du crime organisé à l'extérieur du Québec, particulièrement en Amérique latine, en Amérique centrale, les guérillas, c'est un peu les techniques de terreur là qu'on appelle. Mais si vous on se souvient bien, cette nouvelle technique là, ben c'est pas un groupe constitué de personnes racisées ou issues de l'immigration là qui ont pratiqué ça là, c'est BFM là, c'est Canadien français pur laine là, on se comprend. Donc c'est du n'importe quoi ce qu'il dit. D'autant plus que ça me rappelait beaucoup un discours des années 70, le discours des années 70, 80, 90 qui venait des États-Unis où on associait les gangs de l'époque, c'était des Irlandais, c'était des études qui étaient faites dans les ghettos irlandais, les ghettos italiens, et à ce moment-là, il y avait les flots d'immigrants italiens et irlandais qui débarquaient, et il y avait ces études-là en sociocriminologie qui établissaient un lien entre des groupes de population issus d'immigration et les gangs, quoi, tout simplement. Mais à cette époque-là, on les appelait pas encore des gangs, c'était vraiment des mafias, en fait. C'était même pas des gangs, là, c'était des mafias. Et par après, le phénomène de gang, c'est-à-dire typique jeunesse, là, des groupes de jeunes ensemble qui se mettent ensemble pour faire du crime et qui ont une culture de gang associée à ça et non pas une culture ethnique ou une culture raciale, mais plutôt une culture de gang. Et ça, c'est très particulier, la culture de gang. C'est pas lié à une ethnie ou à quoi que ce soit. Donc, au fond, ce discours-là, qui est très ancien et que, malheureusement, ce discours a stigmatisé des populations sans régler le problème. Parce qu'en fait, si vous remarquez bien, les groupes criminels en général, comme tout groupe humain, vont avoir tendance à se former entre des gens de même famille, de même allégeance, qui sont dans les mêmes quartiers, qu'on grandit ensemble. Donc, généralement, dans les gangs, et je le répète encore une fois, ils vont prendre, si je fais un jeu de mots, là, la couleur du territoire. Moi, quand je suis allée au Salvador, là, pour voir les MS-13, c'était toutes des Salvadoriens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas forcément de grande immigration au Salvador. Bon, aux États-Unis, les MS-13, ça va être autant des Mexicains, des Salvadoriens, ça va être très mélangé. Donc, les gangs, c'est ça. Ça prend la couleur du territoire, tout simplement. BFM, c'est typique de la région de Québec. Donc, c'est plus canadien-français. Mais ils sont alliés avec des gars de Montréal qui, eux, sont plus mélangés. Okay. Si on prend les Hells Angels, c'est un recrutement ethnique. C'est dans leur charte, là, c'est marqué, il n'y a pas d'autre couleur que blanc de blanc.
On ils veulent pas de noir, ouais.
Mafia italienne.
Exact.
Pourquoi? Parce que tu n'es pas italien, tu n'es pas dans la mafia.
Ouais. Paul Saint-Pierre Plamondon, mercredi passé, qui a mentionné sur les ondes de TVA Nouvelles qu'il craint qu'on devienne un peu comme la France où des policiers craignent d'aller parce qu'il y a tellement de violence, les policiers se font tirer dessus dans ces endroits-là. Ben lui, il craint qu'il y ait des quartiers chauds à Montréal qui se créent comme un peu en France. Lui, ce qu'il mentionne, c'est qu'il dit on sous-estime à l'échelle du Québec la gravité de ce que ça peut entraîner, cette inaction-là, de la part de nos autorités. On connaît des cas en Europe ou des villes où on a perdu le contrôle de certaines parties de la ville en raison d'une ghettoisation et d'une infiltration du crime organisé. C'est assez particulier. Puis oui, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas un criminologue, c'est pas un sociologue, mais il y aurait peut-être avantage à parler avec des gens comme vous qui, bon, sont au fait de la situation puis qui connaissent un peu le passé à travers le monde.
C'est ça que moi je trouve dommage aussi, c'est que ce sont aussi des propos qui peuvent avoir un impact. C'est quand un politicien prend la parole, il a un certain impact. Alors c'est pour ça que c'est important de savoir de quoi on parle. Parce que les phénomènes criminels ne sont pas si simples que ça. Lorsqu'il parle, par exemple, de la France, parce que là, il dit l'Europe, mais en fait, il parle de la France, il parle de l'Allemagne, si ma mémoire est bonne, oui. C'est pas pareil, le phénomène en France. On n'est pas dans le même contexte qu'ici. Maintenant, quand on dit qu'il y a des quartiers, là, où la police ne rentre plus en France, quand j'ai fait mes études, enfin quand j'ai fait mes recherches sur les djihadistes, je suis allée dans certains quartiers où c'est vrai, c'est pas évident de rentrer dans ces quartiers-là. Mais on n'est pas en France ici. On est très différent de la criminalité ici. Elle n'est pas tout à fait comme en France. Des gangs de rue, il y en a pas en France. Ok, c'est vraiment du crime organisé. C'est vraiment des mafias là, transeuropéens avec des groupes très, très solides, là, qui sont là depuis des années, là, OK? Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de racisme aussi en France. Tout ça, c'est mélangé, hein? Il y a tellement de racisme aussi en France que des jeunes random, des jeunes qui ne sont pas forcément criminalisés, qui ne sont pas forcément dans des groupes criminels, mais qui vivent dans des ghettos, hein, où ces criminels-là contrôlent le territoire, où ils vivent dans la peur de ces gars-là, parce qu'ils peuvent se faire tirer n'importe quand, ok. Ça c'est vraiment un contexte très français, très européen aussi. Mais chez nous là, c'est pas nouveau là. Il faut encore se réveiller là. Des quartiers criminogènes, là, je le répète depuis des années, il y en a quelques-uns à Montréal. Je prends l'exemple de Montréal, mais il y en a aussi à Québec, ok. Dans les grandes villes, particulièrement Montréal, Québec moins. Mais à Montréal, on a déjà des quartiers que moi j'appelle criminogènes, c'est-à-dire des quartiers qui sont contrôlés, c'est pas visible à l'œil nu, il y a de la police fait de son mieux, elle essaye de maintenir l'équilibre. On n'est pas rendu comme en France où dans certains quartiers, c'est extrêmement compliqué pour la police de rentrer, mais il y a déjà des quartiers criminogènes chez nous où des jeunes se réveillent le matin pour aller à l'école et ils se font solliciter par des gars du crime organisé, ou même pas le crime organisé, ils se font solliciter par des gars de gang constamment, et où ils vont dans des écoles où ils vivent dans la peur de se faire intimider, de se faire stabber, de se faire, à l'extérieur de l'école, se faire battre, parce qu'on les oblige à choisir leur camp.
Mais ça, c'est super intéressant.
On les oblige à entrer dans des gangs. Donc ça, c'est un problème qu'on n'adresse pas assez. Puis sur un point où je suis d'accord avec M. Plamondon, vous voyez, je ne suis pas juste pas d'accord avec lui, il y a un point où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie commission sur les gangs de rue. On a beaucoup eu des commissions sur le crime organisé, on en a parlé, on a parlé de trafic humain au niveau des enfants, au niveau de l'exploitation sexuelle. On a touché ça. Mais les gangs de rue, là, on n'a jamais adressé le problème pour dire, bon, c'est quoi la réalité au Québec? C'est quoi notre réalité en termes de gangs? Combien de gangs on a? C'est quoi un gang de rue? Comment on le définit? Comment on fait pour donner les outils aux policiers pour pas qu'on les traite de racistes ou de faire du profilage racial? Ça aussi, c'est un autre problème. Moi, je suis un petit peu dans tout chaud, tant avec les gars de gang, les victimes que les policiers. Tu sais, j'ai comme une vue un peu globale. Et ce que je constate, c'est que toute la dérive des années 90, 80, 90, même début 2000, où il y avait une racialisation du phénomène de gang, où on attribuait aux gangs de rue la couleur noire, la couleur latino, arabe. Bref, ce langage-là de dire « ça vient d'ailleurs, c'est pas chez nous, c'est des groupes violents, ils importent leur culture violente, là, là, là. » Tout ce discours-là qui n'a servi absolument à rien pour comprendre le phénomène, ben, il a fait en sorte, il y a eu comme un balancier, c'est qu'il y a eu des groupes qui se sont battus, qui continuent à se battre, contre ce qu'on appelle le profilage racial. Et les gars de gang utilisent ça.
Ben hein, oui.
C'est devenu comme une arme à double tranchant. Oui. Parce que les policiers, maintenant, n'osent plus intervenir dans certains quartiers qu'on sait être dominés par des gars de gang. Ils n'osent plus trop. Tu sais, ils sont comme entre l'arbre et l'écorce.
Ouais.
Si j'interviens, ils n'osent plus intervenir en préventif. Ils interviennent encore en réactif, mais plus en prévention,
qui est malheureusement
un gros problème actuellement.
Il y a aussi le chef de police de la ville de Montréal. Je ne veux pas embarquer là-dedans avec vous, mais le chef de police de la ville de Montréal a comme une autre façon de faire avec ses policiers, ce qui fait en sorte que ses policiers sont plus sur le social plutôt que l'intervention directe avec les individus. Je vais vous amener... Moi, je suis un gars de l'ancienne gang de Stephen Harper pour ce qui est du durcissement des, durcissement des sentences pour les crimes qui étaient commis à l'égard des enfants, à l'égard des femmes, des peines un peu plus sévères. Par la suite, les libéraux sont revenus en disant « Non, on va remettre ça comme c'était avant, on ne change rien, tout va bien, puis c'est la réinsertion sociale. » Ça m'a surpris d'entendre Paul Saint-Pierre Plamondon réclamer qu'on regarde un peu les peines bonbons qui sont imposées aux mineurs, parce qu'il dit « Les mineurs sont recrutés par des gangs de rue, par des adultes, puis ils utilisent les mineurs parce qu'eux autres, s'ils se font prendre, ils vont avoir des peines bonbons. » Là, ce qu'il veut, c'est que pour des crimes graves, les sentences soient en proportion de la gravité du crime, même si ça touche les enfants. C'est un peu de la droite, ça, Mme Mourani. Je pensais pas ça de Paul Saint-Pierre Plamondon, bien honnêtement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Tout d'abord, moi, je trouve que les lois qu'on a actuellement sont très correctes.
Okay.
Et la manière dont on gère les mineurs, on les gère de la bonne manière. Les jeunes contrevenants, je parle. Pour les jeunes en protection, c'est une autre histoire. Mais pour les jeunes contrevenants, on est dans la bonne affaire. Jusqu'à présent, comment je peux dire, pour les accusations de meurtre, il va y avoir automatiquement cette analyse qui va être faite par le tribunal de la jeunesse. Là, est-ce qu'on le défraie aux adultes ou pas? Ça, là, ça se fait. Ils le font. Il y a des règles bien spécifiques, mais ils le font. OK? Penser mettre de manière systématique des sentences pour adultes ou même changer cette règle-là pour que des mineurs qui ont commis des meurtres dans le cadre de groupes criminels, les sentencer comme des adultes est une erreur, quant à moi, magistrale. Pourquoi? Premièrement, les mineurs, surtout ceux qui sont enrôlés dans ces groupes-là, ça commence très jeune. Donc, il faut le voir comme une espèce d'endoctrinement. OK? Deuxièmement, les mineurs, là, les 14, 15 ans, même 16, 17 ans, là, la maturité, elle n'est pas là. Ils n'ont pas cette maturité-là de dire, de faire le discernement là entre le bien, le mal, entre une grosse sentence, pas de grosse sentence. Tout ça là, ce discernement-là, ils ne l'ont pas. Ils sont immatures. Ce sont des enfants. Par contre, ce sont les adultes qui embrigadent là, qui embobinent ces enfants-là. Ils sont problématiques. Donc le traitement que l'on fait pour les adolescents actuellement, pour moi, il est équitable. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de demander des expertises pour chaque cas, et chaque cas est différent. On va dire, bon, ben, ce jeune-là, est-ce qu'il avait la maturité au moment de commettre le crime ou pas? À partir de ce moment-là, le juge va décider, est-ce que, bon, on le défera aux adultes ou pas? Maintenant, quant à moi, un jeune de 16 ans qu'on défraie aux adultes, on n'est pas en train de l'aider à rentrer, à aller vers la réinsertion sociale, parce qu'on le sait que la prison, c'est l'école du crime, c'est l'université du crime. Mais outre ça, il y a quand même cette possibilité de discernement-là, de dire est-ce qu'il avait la maturité ou pas, parce qu'il y a des jeunes qui sont plus matures que d'autres. Mais il ne faut pas oublier une chose. Quand tu viens d'une famille où ton frère est dans les gangs, ton père est dans les gangs, ta mère ferme les yeux, tout ce que tu connais, c'est la drogue et la violence, dès que tu grandis, là, tout ce que tu vois dans ton territoire, c'est-à-dire dans ton quartier, c'est des gars de gang, la banalisation de la violence, la banalisation de la drogue, la banalisation du gang en tant que tel, qui devient comme une famille, ben, ta maturité, là, elle n'est pas la même. Ton mindset n'est pas pareil que l'enfant qui a grandi dans une famille bienveillante, qui va à l'école de manière sécuritaire, qu'on lui dit « qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Je veux être médecin. Oh, bravo mon fils, je vais t'aider. » Puis tu fais du piano, puis tu fais des échecs, et puis tu fais ci, puis tu fais ça. C'est pas pareil. Et puis tes parents ne consomment pas. Tes parents ont des belles valeurs. C'est pas pareil qu'un enfant qui grandit dans une famille criminogène, dans un quartier criminogène, dans une école où il n'y a pas le support, et c'est une école où il y a des jeunes qui sont dans des gangs qui sont dans cette école,
ouais.
On ne part pas de la même manière.
Donc, durcir les sentences.
Tenir compte.
Ouais. Durcir les sentences pour les adultes qui utilisent ces enfants-là pour commettre des crimes, ça, vous seriez d'accord avec ça.
Okay. Ah, tout à fait d'accord.
Ouais. Ben, je suis sur le même côté que vous, Mme Morani. C'est toujours un plaisir de vous jaser. Je vous souhaite de passer un super de bel été. Je sais que vous travaillez fort. Puis j'espère que ça vous a diverti pendant les 10-15 dernières minutes de votre travail que vous faisiez.
Avec grand plaisir.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir. Est-ce intéressante, Mme Morani? C'est incroyable.
Oui, puis en même temps, c'est un peu décourageant.
Pourquoi?
Parce qu'on se rend compte de tout ce qui n'est pas abordé puis ce qui tombe dans l'angle mort.
Oui.
T'sais, de les quartiers ghettoisés, on sait qu'il y en a au Québec.
Oui.
Quand tu n'es pas capable de rentrer en contact avec quelqu'un par le manque de communication, la langue qui est différente, peu importe.
Il n'y a pas juste les importés qui se ghettoisent en passant. Là, les Québécois, quand ils s'en vont en Floride, là, ils se ghettoisent aussi.
Même
puis on
chose.
Devient les importés des États-Unis puis on reste ensemble entre Québécois. T'sais.
Puis on voyage pas grand-chose. On veut pas vraiment. On voit rien. On parle pas avec les gens. On n'a pas connaissance de la réalité américaine,
ouais.
mais auprès des jeunes, je trouve ça plus particulier. Puis tu sais, c'est correct qu'on ne se compare pas à l'Europe parce que c'est pas le même contexte, mais une question que j'aurais aimé poser à Mme Morani, puis c'était super intéressant ce qu'elle disait quand je l'ai laissé aller à un moment, mais même si on ne se compare pas, l'enjeu actuel en Europe est hyper important par rapport au manque de frontières entre les pays. Puis j'ai pas de position à savoir, on devrait-tu être un petit peu plus incisif, mettre encore plus de douanes, enlever tout ce qui est Union européenne, puis faciliter de se promener. Pas du tout. J'ai pas cette opinion-là, mais j'ai un regard qui se pose quand même sur la facilité parfois à aller immigrer dans un nouveau pays. puis qu'on se pose pas trop de questions sur le passé de certaines personnes.
Ouais, des petites recherches qui se font, mais effectivement, il y a des pays où c'est un petit peu plus difficile de faire des recherches. Mais j'ai beaucoup aimé jaser avec elle, mais ça me surprend beaucoup de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est quand même un gars assez bien informé. Cette sortie-là, je pense que c'est une maladresse de sa part.
Oui, il voulait faire jaser du sujet, ça se peut, mais tournant les coins ronds.
Tu sais, il trouve qu'Éric Duhaime fait des choses qui sont spectaculaires des fois avec des trucs qui ont été bâtis un peu sur le tas. Ben avec ça, selon ce que j'entends de Mme Mourani, il a fait à peu près la même affaire, là. Il voulait faire jaser. B-Fly, je te le conseille. C'est aux Galeries de la Capitale, Pascal.
J'y étais et je le conseille aussi.
Rendez-vous de l'été. Y avait-tu des beaux papillons?
Oui, j'étais avec mon neveu Mathieu.
T'étais habillé comment?
C'est bizarre, dis-moi.
T'avais-tu un T-shirt blanc?
Non.
Quand t'as un T-shirt blanc, les papillons viennent tout te voir.
Viennent encore plus?
Oui, je sais pas pourquoi.
Ça fonctionne toujours.
Il y a des couleurs qui semblent les intéresser plus que d'autres. Là, tu vois, mon petit Zach, il était habillé en blanc, lui, puis il était plein de papillons. Puis Josh est à peu près le même style que moi, donc tout enfoncé. Et moins de papillons sur nous autres. C'était peut-être notre odeur aussi, je sais pas. Mais bref, c'est une expérience qui est magique au Galeries de la Capitale, B-Fly. Donc il y a des centaines de papillons qui sont en liberté, qui volent autour de vous. Profitez-en pour découvrir notre mini-golf fluo 3D aussi qui est disponible. Donc c'est du plaisir garanti pour toute la famille. Réservez B-Fly.ca, B-Fly.ca.